Jésus savait-il qu'il était le Fils de Dieu ? Nous affirmons dans le Credo que Jésus était Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Mais Jésus le savait-il ? Avait-il conscience de son identité ? Ou bien est-ce les apôtres qui ont inventé cette idée après la mort et la résurrection de Jésus ? Qu'est-ce qui pourrait nous en faire douter ? C'est que dans les évangiles, nous voyons parfois Jésus affirmer qu'il est inférieur à Dieu. « Mon Père est plus grand que moi, dit-il. Il est venu chercher des adorateurs qui adorent le Père avec lui et en lui. » Bien souvent, nous voyons Jésus se comporter comme une simple créature devant Dieu. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, Jésus est une créature. Il a un corps et une âme de créature. Il ne faisait pas semblant de prier, il priait vraiment. Mais par ailleurs, et c'est le paradoxe de Jésus, nous le voyons parler et agir dès le début de son ministère avec une autorité incroyable. Rappelez-vous la façon dont il parle dans le sermon sur la montagne. Nous l'entendons souvent dire, « Il vous a été dit, eh bien moi je vous dis. » C'est comme si Jésus disait, « Dieu vous a dit ceci et cela, eh bien moi, je vous dis le contraire. » En effet, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, par respect pour le nom de Dieu, les Juifs utilisent volontiers cette tournure passive. Au lieu de dire « Dieu vous a dit », ils disent « Il vous a été dit ». Voyons par exemple l'audace incroyable avec laquelle Jésus répond à ceux qui viennent l'interroger sur la façon dont il faut interpréter la loi de Dieu sur le divorce. Rappelez-vous que le livre du Deutéronome, au début du chapitre 24, autorise un homme à répudier sa femme, s'il trouve en elle une tare à lui imputer. La seule chose qu'on exigeait, c'était qu'il donnât à son épouse un acte de répudiation pour que l'épouse puisse épouser un nouveau mari sans être accusée d'adultère. Telle était la loi, bien nette. Mais ce qui était sujet à discussion interminable, c'était le motif qui légitimait une telle répudiation. Les uns disaient qu'une soupe mal cuite était un motif suffisant. C'était évidemment l'opinion des laxistes, selon une jurisprudence qui existait déjà dans le droit romain. D'autres disaient qu'il fallait une incompatibilité d'humeur. D'autres, une grave incompatibilité d'humeur. D'autres, un adultère. Les plus rigoristes estimaient qu'il fallait au moins 3 adultères dûment constatés. Telle était la gamme des opinions. En venant interviewer Jésus, ses interlocuteurs pensaient sans doute que Jésus allait leur proposer une réponse moyenne, du genre « Vous pouvez la renvoyer s'il y a entre vous une grave incompatibilité d'humeur. » Or, vous connaissez la réponse scandaleuse de Jésus. Jamais vous n'avez le droit de renvoyer votre femme. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette loi qui autorise le divorce dans certains cas. Mais à l'origine, continue Jésus, dans la vision idéale du couple que Dieu avait de toute éternité, il n'en était pas ainsi. Par conséquent, conclut-il, si quelqu'un renvoie sa femme et en épouse une autre, il est adultère. Vous rendez-vous compte de l'audace incroyable de Jésus, de ses prétentions insupportables pour les oreilles d'un juif. Un scribe peut interpréter de 36 façons la loi de Dieu, mais il ne la remet pas en question. Ce que fait Jésus, il se met au-dessus de la loi. Il la conteste, il la contredit, il blasphème. Autre exemple. Jésus guérit le paralytique qu'on lui amène à Capharnaüm tout en lui pardonnant ses péchés. Il ne lui dit pas « Que Dieu te pardonne tes péchés », mais il affirme détenir ce pouvoir du fait qu'il est le Fils de l'homme, la figure de beaucoup la plus glorieuse du Messie qui ait été annoncée, puisque le prophète Daniel la voyait arriver sur les nuées du ciel, s'avancer jusqu'à Dieu et recevoir un empire éternel sur tous les peuples. C'est également de sa propre autorité que Jésus chasse les démons, sans invoquer l'aide du ciel. Et quand on le critique d'avoir guéri un paralysé un jour de sabbat, il justifie sa conduite en disant qu'il fait comme son Père du ciel, lequel ne cesse de créer le monde. eh bien, je fais comme lui, je ne chôme jamais. Aussi, continue l'Évangile, les Juifs n'ont cherché que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Il réclame de ses disciples, Jésus, un amour qu'on ne doit qu'à Dieu, puisqu'ils doivent l'aimer plus que leur père, leur mère ou leurs enfants. Il se présente comme le pain, le vrai pain venu du ciel, comme la vraie source de vie, capable de désaltérer le cœur de l'homme, comme le véritable temple de Dieu, et même comme celui qui reviendra à la fin des temps pour juger tous les hommes en disant à chacun, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Il va même jusqu'à dire à ses contradicteurs, dans ses dernières discussions avec eux, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. On comprend qu'après avoir été témoin de cette familiarité merveilleuse qu'entretenait leur maître avec son Père du ciel, et qu'après l'avoir vu ressusciter, les apôtres, très vite, ont appelé Jésus « Kurios », le nom qu'on ne donne qu'à Dieu, le nom de Seigneur qu'on ne donne qu'à Dieu. Mais on comprend aussi qu'on ait fini par arrêter ce blasphémateur et par le condamner à mort. C'est d'ailleurs la réaction qu'ont encore aujourd'hui les Juifs qui, à l'école hébraïque de Jérusalem, se mettent à lire les évangiles. Ils l'ont laissé courir 3 ans sans l'arrêter. Il a eu de la chance.